Sur Europe 1 et sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changé. Il est 7h.
On commence à avoir quelques malades qui s'améliorent suffisamment pour envisager de les sortir des services de réanimation.
82 malades en moins en réanimation dans toute la France, chiffre annoncé hier soir, et c'est encourageant dans la lutte contre le Covid-19. Les EHPAD durement touchés par le virus, mais aussi par la solitude. Plus de contact direct avec la famille, un crève-cœur pour cette femme qui ne peut plus aller voir sa mère.
Ma mère, je ne peux pas lui expliquer ce qui se passe. Donc elle va de fait se retrouver seule, condamnée à être seule, en voyant une aide-soignante le matin, à midi et le soir, et puis c'est tout.
Emmanuel Macron aux côtés du professeur Raoult à Marseille, le président est allé rencontrer le plus fervent défenseur de la chloroquine sans pour autant valider ses méthodes. Un plan d'urgence de 100 milliards d'euros pour soutenir notre économie. Le déficit public va atteindre 7,6% du PIB. Ce sera l'éclairage éco de Nicolas Barré. Et puis si vous êtes fondu de fromage, ça va vous plaire. La filière en difficulté a organisé hier un jeu sur internet avec questions et dégustations.
Avoir un plaisir, un moment un peu hédonique autour du fromage, c'était le premier objectif.
Votre invité à 7h40, Mathieu.
Nous allons parler, de la géolocalisation, du tracking, ces gros mots que vous entendez beaucoup ces derniers jours. Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, vous le savez. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Bruno Le Maire. Vous êtes avec toute la rédaction d'Europe 1 le matin, ce vendredi matin. On est tous ensemble, chacun chez nous. Très bon réveil à toutes et à tous, il est déjà 7h02.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Chaque jour, le directeur de la santé, Jérôme Salomon, égrène le nombre de victimes du Covid-19 en France. Plus de 12 000 au total, 424 ces dernières 24 heures. Mais hier, il y avait au moins une bonne nouvelle. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, le solde des patients en réanimation est devenu négatif. Plus de sorties que d'entrées donc. C'est un début d'éclaircie pour les services hospitaliers. Mathieu Charrier.
On aperçoit enfin, même si elle est encore loin, une petite lumière au bout du tunnel, explique ce médecin réanimateur d'un grand hôpital parisien. Car moins de patients qui entrent dans son service de soins intensifs que de patients qui en sortent, ça veut dire que les taux sur les hôpitaux arrêtent de se resserrer et pourraient même commencer à se desserrer dans les prochains jours. C'est grâce au confinement, explique Bertrand Guidet, chef du service réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, car il constate que désormais les patients admis en soins intensifs sont principalement des patients déjà hospitalisés et non pas des nouveaux malades.
Les malades que l'on reçoit viennent maintenant très peu de la ville, mais ils viennent de malades qui sont hospitalisés et qui s'aggravent en cours d'hospitalisation. Ça, c'est pour les admissions. Et pour les sorties, on commence à avoir quelques malades qui s'améliorent suffisamment pour envisager de les sortir des services de réanimation. Donc, c'est important en termes de signal de santé publique et c'est important en termes d'organisation pour les services de réanimation.
Alors attention, cela ne veut pas dire que le nombre de morts du Covid-19 va baisser dans les prochains jours, car il y a encore plus de 7000 malades en réanimation, dont on sait qu'environ la moitié n'y survivra pas, selon les chiffres de la PHP. L'Italie, par exemple, connaît cette baisse du nombre de patients en réanimation depuis 6 jours, depuis samedi dernier, mais elle a encore enregistré hier 610 décès en 24 heures.
Et pour soulager les services de réanimation débordés en Île-de-France, de nouveaux transferts de malades sont prévus aujourd'hui à bord de 2 TGV médicalisés. Ils rejoindront des hôpitaux de la Nouvelle-Aquitaine.
Dans les EHPAD, on déplore plus de 4000 morts. Au-delà même de l'épée de Damoclès de la maladie qui plane au-dessus des résidents, il y a un autre fléau, plus insidieux, la solitude.
Oui, ils se retrouvent confinés dans leur chambre, sans aucune visite de l'extérieur. Gabriella venait voir sa mère au moins 4 fois par semaine dans son EHPAD de Strasbourg, une femme de 74 ans, dépendante. Ne plus avoir de nouvelles est aujourd'hui un déchirement.
J'ai aucun moyen de savoir si elle va bien ou pas. C'est une vraie interrogation pour moi au quotidien de me demander comment va ma maman. En temps normal, je ne sais pas comment elle va, mais je me dis on fait tout ce qui est en notre possible pour qu'elle aille le mieux possible. Là, je me dis rien n'est fait pour qu'elle aille bien. On peut être certain aujourd'hui qu'elle n'a pas ce dont elle a besoin vitalement, c'est-à-dire une relation avec ses proches. Je pense qu'il va y avoir des drames, c'est-à-dire des morts qui vont suivre de ce confinement, de dépérissement en fait. Les gens vont dépérir. C'est-à-dire que ma mère, je ne peux pas lui expliquer ce qui se passe. Donc elle va de fait se retrouver seule, condamnée à être seule en voyant une aide-soignante le matin, à midi et le soir, et puis c'est tout. Si elle dépérit pas de nourriture, j'ai peur qu'elle dépérisse de solitude et d'abandon en fait.
Témoignage extrêmement émouvant recueilli par Victor Delande.
Si vous voulez témoigner d'abord de cette solitude dans les EHPAD, bien sûr, la difficulté pour les proches de la vie finalement à l'intérieur des EHPAD aussi, beaucoup de questions se posent. Vous appelez le 3921 et ou vous utilisez simplement le hashtag Radio Ouverte, on vous lira.
Le débat sur la chloroquine est loin d'être éteint. Hier, Emmanuel Macron est allé rencontrer à Marseille celui qui symbolise le combat pour l'utilisation de ce médicament, le professeur Raoult. Cela dit, Jean-Rémy Baudeau, pas question de laisser entendre que le président se range derrière ses théories.
Non, Hélène, dans les couloirs de l'hôpital de la Timone, le professeur Raoult a remis à Emmanuel Macron sa toute dernière étude, un papier tout chaud, reconnaît l'équipe du président. Le médecin y affirme avoir guéri 91% de ses patients grâce à la chloroquine. Pourtant, à l'Élysée, on précise que ce nouveau rapport et cette visite du chef de l'État ne viennent pas approuver les théories du chercheur marseillais. On n'est pas dans le pour ou le contre, explique une collaboratrice qui insiste sur la nécessité de la validation scientifique. On aurait pu aussi bien aller à Angers, promet une conseillère. Il n'y a pas de signal, juge un proche du président qui réfute l'idée d'un message envoyé à l'opinion. Car au sein de l'exécutif, on a quand même bien compris qu'au fil des semaines, le professeur Raoult, il est devenu un symbole, presque une star anti-système. C'est pourquoi certains dans l'entourage d'Emmanuel Macron prennent le sujet dans l'autre sens. Il y aurait surtout un risque à laisser le professeur Raoult dans un coin, à l'ostraciser, reconnaît un conseiller. Une visite officielle était donc utile, mais une visite sans photo officielle. Les 3 heures d'échange entre les deux hommes se sont faites loin des caméras. Les seules images qui circulent depuis hier sont celles des smartphones des soignants présents sur place.
Jean-Rémy Baudot, Emmanuel Macron consulte avant son intervention de lundi soir. Il devrait en dire plus sur la durée du confinement et évoquer aussi la situation économique et sociale d'une France qui vient d'entrer dans une récession historique.
Il y a 3 semaines à peine, le gouvernement annonçait un plan d'urgence de 45 milliards d'euros pour lutter contre la crise. On en est aujourd'hui à plus du double. 100 milliards d'euros, c'est à lire dans Les Échos ce matin et nous retrouvons précisément Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est historique.
Oui, du coup, le déficit public effectivement atteindra 7,6% du PIB. On est évidemment bien loin de l'épure des 3%. La dette grimpera à 112% de la richesse nationale. La croissance économique va plonger de 6%. Tous ces chiffres effrayants que je vous dévoile figureront dans le budget rectificatif qui sera présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. Ils sont basés sur l'hypothèse que le confinement tel que nous le connaissons en ce moment dure environ 6 semaines. Évidemment, si c'est plus long, ces chiffres devront être révisés. Et ce qui est clair, c'est que l'État ne pourra soutenir indéfiniment l'économie.
Alors dans ce budget, l'État prévoit 20 milliards pour les nationalisations.
Pour nationaliser des entreprises fragilisées ou pour entrer à leur capital, ça c'est l'État pompier. La grande crainte en effet est justifiée de Bruno Le Maire, qui sera tout à l'heure au micro de Sonia Mabrouk, c'est que cette crise fasse disparaître à tout jamais des pans entiers de notre tissu économique, d'où ces aides massives. Mais vous le voyez bien, le moment approche où il va falloir faire un choix. Maintenir un confinement très strict au nom de la protection de la santé publique mais au risque de tuer l'économie, ou relâcher le confinement pour éviter une faillite générale. Le moment de cet arbitrage approche, c'est à coup sûr la décision la plus difficile à prendre du quinquennat.
L'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, ce dilemme justement, maintenir le confinement ou non, je vais lancer un appel aux petits patrons de PME, les artisans peut-être. La question est très simple, la réponse plus compliquée. Vous tenez combien de temps ? Là, vous tenez combien de temps dans ce contexte ? Dites-le nous au 39-21. On vous retrouve Nicolas Barré tous les matins à 7h et donc rendez-vous à 8h15 avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances sur Europe 1.
Bruno Le Maire qui salue un excellent accord pour Berlin. C'est un grand jour pour la solidarité européenne. Hier soir, en effet, les ministres des Finances de la zone euro ont réussi à trouver une riposte économique commune à la crise. 500 milliards d'euros disponibles immédiatement et un fonds de relance dont on ne connaît pas encore le montant.
Avec cette crise, beaucoup de questions évidemment sur l'emploi dans les semaines, dans les mois à venir. Pour les salariés qui avaient démissionné avant le début du confinement, c'est un peu la mauvaise pioche.
Et si l'entreprise qui devait les embaucher faisait marche arrière ? Le cas de figure n'est pas si rare. D'ailleurs, le ministère du Travail prépare un décret pour la semaine prochaine. Ces salariés pourront bénéficier de l'indemnisation chômage. Les précisions d'Olivier Samin.
Évidemment, il ne pouvait pas le prévoir. Patrick a démissionné de son poste à la mi-janvier, dans le but, une fois son préavis achevé, de rejoindre un nouveau poste plus intéressant dans une autre entreprise. Embauche prévue pour la mi-avril. Sauf qu'entre-temps est arrivé le confinement et la mise à l'arrêt d'une multitude d'entreprises, dont celle qu'il s'apprêtait à rejoindre.
J'ai pris peur parce que, étant donné que j'étais démissionnaire, je me demandais si mon prochain employeur allait du coup m'employer. Vu la conjoncture et vu que son entreprise est fermée comme la plupart des autres, et du coup ne pas m'embaucher et me retrouver sans emploi.
Patrick n'est pas le seul à vivre cette situation, avec le risque, si l'employeur renonce au recrutement, de se retrouver sans revenu puisque les démissionnaires, sauf exception, n'ont pas droit aux allocations chômage. Un trou dans la raquette, a reconnu hier Muriel Pénicaud. D'où la mesure temporaire actuellement en préparation. Les salariés démissionnaires, dans la situation de Patrick, auront droit, à titre exceptionnel, à l'indemnisation chômage si leur démission a été posée avant le 17 mars, date du début du confinement. à condition aussi que l'emploi qu'il convoitait soit un CDI ou un CDD de plus de 3 mois.
Après Paris et 5 départements franciliens, l'Alsace interdit à son tour les joggings en journée. Idem à Saint-Étienne en Ardèche. Les sorties à plusieurs sont interdites. Des œufs, des poules et autres lapins. Les fêtes de Pâques, c'est dimanche, l'occasion pour petits et grands de faire le plein de chocolat. Mais pour les professionnels, cette année, confinement oblige, le chiffre d'affaires risque d'être en baisse.
Bonjour Frédéric Chambeau.
Bonjour.
Et merci d'être sur Europe 1 en direct avec nous ce matin, dirigeant de la maison Fouquet, président de la Confédération des chocolatiers. En ce moment, j'imagine que malgré le confinement, vous devez travailler. C'est pas qu'on n'a pas de chômage partiel pour les chocolatiers ou au contraire, est-ce que les clients se tournent vers la grande distribution ?
Non, nos clients fidèles nous ont sollicité. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a, pour la grande majorité d'entre nous, réouvert les boutiques. On a ouvert très partiellement depuis le début de la semaine. En grande majorité.
Avec une réorganisation, vous vous tournez vers le numérique, bien sûr.
Oui, naturellement, des outils qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'utiliser, qu'on utilise maintenant de façon intensive, le numérique, et puis des solutions type drive-in, click and collect, donc des choses qui n'étaient pas forcément des philosophies de vente courantes chez les artisans.
Est-ce qu'avec tous ces efforts, vous allez pouvoir sauver votre saison, sauver ce week-end en particulier ?
Non, vous savez, en général, la semaine de Pâques dans les boutiques, en moyenne, on voit 40 à 60 clients. Là, on fait des livraisons, on fait des commandes, mais de très loin, ça ne sauvera pas malheureusement la semaine de Pâques.
Vous en êtes à combien d'activités, pardon, par rapport à l'ordinaire ?
J'aurais tendance à dire que sur la semaine, nous, en l'occurrence, on va faire à peu près ce qu'on fait le samedi de Pâques.
Sur la semaine. Merci Frédéric Chambeau, président de la Confédération des chocolatiers, d'avoir été en direct dans le journal de 7h d'Europe 1 ce matin.
En général, Mathieu, on mange plutôt le fromage avant le chocolat. Là, on va faire le contraire. Chacun sa manière d'alerter sur les difficultés de sa filière pour le fromage. C'est l'humour avec une grande dégustation sur Internet pour tester ses connaissances fromagères. Question pour un frometon. Pierre Arbulot a suivi ça de très près.
Tout proviennent traditionnellement les moisissures à l'intérieur des bleus.
À la place du buzzer rouge, un plateau de fromage. Bria Savarin, Tom de Brebis, Maroual. Devant leur ordinateur, les 100 candidats répondent aux questions des deux fromagers animateurs.
Combien d'AOP en France ?
45.
À quelle famille appartient le fromage Les Poisses ?
La famille des fromages qui puent ou pâte molle à croûte lavée.
Petite leçon de vocabulaire. Pour le bleu d'Auvergne, par exemple, ne dites pas...
Ça sent un peu le pourri.
Dites plutôt...
Ça sent cette ouverture de porte cave en terre battue.
L'idée de la soirée, c'était aussi de sensibiliser aux difficultés de la filière. Moins 60% de ventes en ce moment. Il faut acheter des fromages, dit sur un ton beaucoup plus sérieux François Robin, meilleur ouvrier de France. Oui, mais pas n'importe lesquels.
J'ai rien contre les fromages de grande garde comme le Comté, par exemple, ou le Beaufort, mais on peut les affiner un petit peu plus longuement. Ce qui est plus sensible en ce moment, ceux qui sont au cœur de la tourmente, c'est les fromages qui sont d'affinage à 2-3 semaines. Par exemple, les Saint-Nectaire, des chèvres frais, des camemberts de Normandie. On peut aller sur des fromages aussi à croûte lavée, comme des époisses, des langres.
Choisir son fromage peut donc devenir un acte citoyen.
Le fromage patriotique, ça va en général, ça fonctionne bien.
La filière a même créé un slogan, fromagissons.
Fromagissons, achetons du fromage par exemple pour l'apéro virtuel de ce soir.
Je ne sais pas si on se l'imagine correctement finalement, cette odeur d'ouverture de porte sur cave en terre battue. Je ne sais pas, j'ai du carrelage dans le garage, je ne peux pas vous dire. Merci beaucoup Hélène Zeleny.